Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Comment construire l'esprit d'équipe au sein d'une entreprise? On en parle avec David Pata, expert en organisation de travail et management des compétences, directeur général des Racirois. David Pata, bonjour.
Bonjour, monsieur Jolie.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. On vous retrouve dans quelques instants. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise. Comment les développer? On en parle avec Val Massamba, qui est coach en entrepreneuriat et directeur général de IF Entrepreneuriat. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Alain Goy à la mise en onde. Marcel Ngomou Mbalakeba sur la coordination de cette émission. Tati Mapoukou à la réalisation. Jody Damien Kejama au micro. Bienvenue à tous.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Capi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Capi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Capi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous écouter partout. Vous êtes à RDC et même en dehors de nos frontières. Alors, aujourd'hui, nous allons parler entreprise. Comment construire l'esprit d'équipe au sein d'une entreprise? Beaucoup de responsables des sociétés ne se soucient guère de promouvoir les rapprochements des liens sociaux au sein de leurs équipes. D'après certains, selon les experts, le resserrement des liens sociaux au sein du personnel d'une entreprise contribue à créer un bon climat de travail, et cela peut impacter aussi le rendement au sein de l'entreprise. Alors comment... c'est quoi l'esprit d'équipe? Comment arriver à mettre en place, à créer cet esprit d'équipe? Quels sont les bénéfices, etc. Eh bien, on va discuter de tout cela avec notre invité. Il s'agit bien de Monsieur David Pata, expert en organisation de travail et management des compétences. Il est aussi directeur général de Racirois. David Pata, encore une fois, bonjour et nos meilleurs vœux.
Merci beaucoup, bonjour.
Alors, nous parlons de l'esprit d'entreprise. D'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par esprit d'entreprise? Pardon, l'esprit d'équipe au sein d'une entreprise, je voulais dire.
Effectivement, l'esprit d'équipe peut avoir plusieurs synonymes, notamment âme collective, esprit commun, unité mentale ou unité psychique. C'est-à-dire, c'est la somme des individualités, des pensées individuelles de plusieurs personnes qui sont dans une entreprise et qui sont orientées vers un esprit commun de l'entreprise. Donc, ils ont fait taire leurs individualités pour réfléchir de la même manière, avoir le même sentiment, éprouver les mêmes affections et réfléchir presque de la même manière. Tout ceci part pour atteindre l'objectif de l'entreprise. Donc, voilà ce qu'on appelle esprit d'entreprise, esprit d'équipe.
Esprit d'équipe, c'est l'âme collective.
L'âme collective, unité mentale, unité psychique, esprit commun, qui est la somme des esprits individualisés qui tendent vers l'objectif commun de l'entreprise.
Alors, dites-nous comment on arrive à créer un esprit, cet esprit d'équipe au sein d'une entreprise.
Ok, parmi il y a plusieurs approches, mais l'approche la plus courante c'est le team building. C'est le team building, ça s'écrit c'est en anglais, ça s'écrit c'est T-E-A-M, team. Building, donc esprit commun, esprit d'entreprise. Il s'agit en fait d'une approche qui est souvent utilisée. Et le plus souvent, les gens doivent se retrouver en dehors de l'entreprise. Ce qui est conseillé, que les gens se retrouvent dans un milieu naturel où ils vont faire certains jeux ludiques, surtout les jeux d'enfance, les kebos, etc.
Et en dehors du cadre.
En dehors du cadre, il faut vraiment que ça soit fait dans les cadres naturels, sous les arbres, dans les espaces verts, où les gens vivent dans des endroits naturels et ils vont laisser tomber leurs étiquettes. Et dans ce genre d'espace, il n'y a pas de chef. Tout le monde est au même diapason. Ce qui crée déjà un esprit commun Et au travers du jeu, les gens vont renforcer les liens sociaux et également la considération interpersonnelle.
Donc il faut avoir des moments, des divertissements, on quitte un peu le boulot, on va ailleurs, on va jouer au football ou on s'adonne à d'autres activités.
Et effectivement, donc il faut vraiment quitter les bureaux, aller dans des endroits naturels, mais tout cela doit être organisé.
Oui.
On appelle ça, ça entre dans la composante sociale de l'entreprise. D'ailleurs, lorsqu'on a créé pour la première fois, lors de la révolution industrielle, la direction du personnel, ce que vous appelez aujourd'hui direction des ressources humaines, c'était auparavant direction du personnel, on appelait ça, avant même que ça soit appelé direction du personnel, ça s'appelait direction de bien-être social. Donc ça entre dans la catégorie de bien-être social, parce que l'être humain n'est pas simplement un facteur économique, où on le perçoit comme producteur de services pour maximiser les bénéfices, mais on le conçoit également comme un capital qu'il faut, sur qui il faut s'investir pour lui donner l'occasion de se développer, de développer son esprit, de développer sa pensée, de développer son intelligence, de développer son affection et même la dimension sentimentale.
D'accord. Donc, les entreprises doivent prévoir, avoir toujours cet aspect-là, s'occuper du bien-être des travailleurs.
Oui, bien-être du travailleur.
Du travailleur. Est-ce que, par rapport au bien-être, il faut seulement aller se retrouver dans des activités récréatives où il y a d'autres façons de rapprocher les gens et de construire cette équipe, cet esprit d'équipe?
Oui. Bon, il y a également, parce qu'avant de construire l'esprit d'équipe, il faut d'abord savoir qui est chacun de personnes employées au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que il faut faire ce qu'on appelle les diagnostics individuels, ce qu'on appelle le bilan psychologique. Ici, je ne parle pas de bilan de compétences. Ici, nous sommes pas vraiment dans la dimension compétence-performance. Ici, nous sommes dans le domaine, dans la dimension de bilan psychologique. Qui est chacun de nous? Il renferme quoi? Quel est son état psychique? À partir des bilans psychologiques, on peut dégager, n'est-ce pas, les grands axes et voir quel type, n'est-ce pas, de personnalité qu'impose l'entreprise. À partir de ces rapprochements, on peut effectivement voir quel type d'activité, notamment dans des activités récréatrices, notamment également dans certaines thématiques, renforcer la culture d'entreprise. Par exemple, on peut casser, n'est-ce pas, les étiquettes ou les épithètes. Au lieu de chaque fois de dire DG, on peut casser les épithètes ou les étiquettes.
Excellent,
en disant que chacun de nous s'appelle par son nom. Ça, c'est une façon également de niveler, n'est-ce pas, les esprits des gens. Et également, donc il y a plusieurs astuces qu'on peut utiliser.
Voilà, plusieurs astuces qu'on peut utiliser pour créer l'esprit d'équipe. Mais quels sont les avantages? Pourquoi créer l'esprit d'équipe? Qu'est-ce que cela apporte comme avantage?
Pourquoi créer l'esprit d'équipe? Parce que simplement, l'entreprise, comme son nom l'indique, est une fédération de plusieurs individualités. Toutes les personnes qui sont engagées, chacun vient d'un millier. Il s'amène avec sa culture, avec presque un bagage, n'est-ce pas, culturel, cognitif, pensif, affectif, etc. Et lorsque les gens sont engagés dans l'entreprise, il y a une sorte, n'est-ce pas, de confrontation interculturelle et des esprits. Ce qui fait que lorsque il n'y a pas un esprit commun qui est créé, ces genres de confrontations sont traduits sous forme de conflits, n'est-ce pas? C'est ainsi, vous verrez, dans des entreprises où cet esprit n'a pas été créé, il y a des conflits. Et donc, ça permet de créer un esprit commun, en même temps de renforcer les liens sociaux, de renforcer les liens sociaux, de niveler les niveaux de connaissances et également de créer, n'est-ce pas, des affections qui tendent à une sorte de cohésion mentale, et ce qui pousse les gens à être plus productifs et d'avoir les goûts et les sentiments de demeurer fidèles au sein de l'entreprise. Par conséquent, lorsque cet esprit n'est pas créé, ça va générer des conflits et ça va multiplier, n'est-ce pas, des occasions de tensions, ce qui pourrait, n'est-ce pas, aussi se déverser dans certains actes que j'appelle des pratiques occultes. Et lorsque déjà dans une entreprise il y a des pratiques occultes, ça devient dangereux, et c'est là que ça crée ce qu'on appelle la démotivation sociale. D'ailleurs, Adam Smith l'a illustré dans sa théorie de l'équité quand il parle de la justice interactionnelle et informationnelle. En supposant que dans une entreprise où les interactions sont très intenses, où les gens ont la facilité de donner l'information, d'avoir des informations sur la manière dont cette entreprise fonctionne, ça renforce la cohésion sociale et ça donne le goût à la fidélité, c'est-à-dire l'envie de rester fidèle à l'entreprise et de vivre en commun avec les autres.
Et on développe un sentiment d'appartenance.
Effectivement, les sentiments d'appartenance.
À un même groupe.
Effectivement.
D'accord, on va accueillir les auditeurs. Hugo Kalangwa nous appelle de Kolwezi. Bonjour Hugo.
Bonjour, c'est le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Aussi pour les auditeurs de la Radio Capi.
Bienvenue Hugo. Hugo, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'esprit d'équipe au sein d'une entreprise?
Merci beaucoup monsieur le journaliste. Pour l'esprit d'équipe au sein d'une entreprise, je pense qu'avant que nous créions cet esprit d'équipe, nous devons d'abord savoir, comme nous l'a dit l'invité, l'entreprise c'est toute une agglomération des gens. C'est toute une agglomération des opérations. C'est toute une agglomération des engins. Ce qui fait que l'esprit d'équipe se crée ou se détériore, c'est quoi? Je sais que c'est d'abord les tendances. Quand une fois vous êtes aligné en tant que responsable d'une entreprise, chargé peut-être des ressources humaines, chargé peut-être des finances, chargé peut-être des supervisions, des travaux, les tendances, tribales, les tendances sociales, les tendances sociales, les tendances, ainsi de suite, peuvent détériorer les liens, peuvent également améliorer les liens. Au cas où vous les conservez convenablement, vous traitez tout agent d'une même manière, vous traitez tout candidat qui vient déposer la demande d'emploi d'une même manière. Mais si vous les traitez déjà avec une discrimination, voilà déjà le premier cas. La détérioration de liens. Des deux, la façon dont les travaux vont s'effectuer, vont s'opérer. Il y a les tâches que les superviseurs qui nous font travailler peut-être dans des entreprises. Nous avons ici au Katanga, moi j'appelle à partir de Kolwezi. Ici au Katanga, nous travaillons en fonction des tâches. Par exemple, qu'on appelle ici couramment Kikongwani. Une tâche de 15-20 mètres dont chacun de nous doit travailler. Mais vous trouvez que lors de la distribution de ces tâches, il y aura une certaine distinction. Il y a ceux-là qui vont travailler en fonction des 20 mètres, il y a ceux-là qui vont travailler en fonction des 15, des 10 mètres, et les autres seront même au-delà des 20 mètres parce qu'ils ne sont pas les nôtres, parce qu'ils ne sont pas du côté superviseur. Voilà ce qui est à la base de discriminer, de créer des troubles sociaux au sein d'une entreprise. Trois, lors de paiement des salaires, des péridièmes, je pense que chacun de nous ou des employés travaillent d'une même manière l'un à l'autre. Mais lors des paiements, vous allez trouver que peut-être celui qui est chargé de paye est de l'autre côté. Lui va s'occuper beaucoup des siens d'abord en commençant par leur donner l'argent ou en commençant par les payer. Et les autres vont piriger même 3, 2, 4 semaines en faisant des va-et-vient rien que pour attendre leur salaire. Et toi, vous allez encore remarquer que même pendant les payes, il est en train d'effectuer.
D'accord. Hugo, merci. On a compris votre préoccupation lorsqu'il y a un traitement discriminatoire des agents et oui, il y a des tendances aussi tribalistes au sein de l'entreprise. Cela va détériorer certainement le climat de travail. Charles, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute, Charles.
Je voulais un peu d'entrée de jeu demander à monsieur l'invité. Est-ce que avoir l'esprit là d'équipe, c'est un phénomène là qui est naturel ou bien ça va suivre par après, peut-être à travers les cours après l'université? C'est naturel ou bien ça peut ça arrive comme ça? Et puis, mon constat est très alarmant ici à Lubumbashi. Je regrette la plupart des employeurs sont des vrais machiavéliques, ils ont des systèmes là machiavélistes. Alors, ils font du n'importe quoi. Ils sont à la base de la détérioration au sein de l'entreprise. Ils font du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils disent? Si j'ai développé l'esprit là humaniste, vous verrez que les agents seront toujours unis. Alors, ils cherchent toujours à les séparer pour bien diriger. Maintenant, je ne sais pas à l'inviter. Est-ce que les leaders qui se comportent comme ça, leurs entreprises ont une pérennisation, ou bien, comme ils sont têtus, excusez le terme, en disant que non, non, même si vous partez, au Congo, j'ai autant de demandes, je vais trouver encore d'autres travailleurs. J'ai de l'argent, j'ai des connaissances, des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment un bon langage responsable, ou bien qu'est-ce que les idées ont comme conseil particulier? Voilà un peu, monsieur Jody.
Bien, merci pour toutes ces préoccupations. David Pata, à vous la parole.
Ok, donc comme j'avais dit, le premier, celui qui venait d'intervenir, hein, a souligné sur la dimension, je l'ai dit aussi tantôt, l'équité. L'équité, c'est quoi? C'est la manière dont on traite de manière, disons, de la même manière tous les agents. Alors, le traitement peut s'observer par, disons, la division des tâches, comme j'ai dit, par la rigueur, par également la dimension salariale ou des traitements des motivations, etc., pécuniaires. Et également, il faut aussi souligner un autre facteur, le leadership, comme l'a souligné Charles. C'est-à-dire, ce que vous soulignez, c'est la dimension leadership, la manière dont le manager essaye de s'imposer, de créer son esprit, d'influencer les autres. Si le manager crée une influence négative, c'est-à-dire il va dans la logique de diviser pour mieux régner, c'est là également ça va détériorer les climats, n'est-ce pas,
du travail. Du travail. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup d'entreprises.
Mais malheureusement aussi, lorsqu'ils vont dans la logique de diviser pour mieux régner, ils sont aussi en train de préparer une bombe pour eux-mêmes. Parce que, comme vous le savez, les entreprises de services sont fondées sur les compétences. Et la personne qui a la compétence n'est pas simplement le manager. Il se pourrait que le manager aille de l'avance parce qu'il avait des opportunités pour créer une entreprise, par exemple, de placement, etc. Des entreprises de services que vous connaissez. Mais ce qui fait vivre cette entreprise, ce sont les compétences que les gens amènent. Donc, ça signifie que le jour où les compétences sûres vont partir, l'entreprise va, si elle n'est pas en mesure de recruter des compétences équivalentes ou homologues, cette entreprise va disparaître. C'est ainsi que vous verrez la plupart de toutes ces entreprises où le manager ne sont pas suffisamment formés et sur le plan managérial et sur le plan entrepreneurial, toutes ces entreprises finissent par disparaître parce que simplement le manager n'était pas formé. Donc, ce qu'il faut reconnaître et il faut retenir, donc il y a plusieurs facteurs qui créent, au-delà, n'est-ce pas, des team building, il y a plusieurs autres facteurs qui créent l'esprit d'entreprise, notamment la manière de gérer. C'est ainsi que beaucoup de managers doivent être formés sur le leadership. Mais également la manière de traiter les gens. Parce que pendant des années, nous avons cru que un bon salaire permettait simplement à lui seul de maintenir une personne au sein de l'entreprise.
Or, ce n'est pas ça.
Or, ce n'est pas simplement ça. Mm-hmm. Comme on dit, on ne vivra pas seulement. Donc, ce n'est pas seulement les salaires. Oui. Il y a plusieurs autres facteurs, notamment les relations interpersonnelles,
l'atmosphère du travail, le climat,
climat psychosocial de l'entreprise,
la manière de traiter les agents,
la manière de traiter, l'équité, tous ces facteurs contribuent également à permettre à ce que les gens soient performants, qu'ils aient les sentiments de demeurer ensemble et qu'ils puissent avoir également les sentiments d'appartenir à cette entreprise et de vivre ce qu'on appelle la gentilisation. C'est-à-dire le sentiment de se sentir fier, d'être fier en étant
d'appartenir à cette équipe-là.
Appartenir effectivement à cette entreprise.
Mais s'il y a des tendances tribalistes, par exemple, le manager, lui, il ne coopère qu'avec les gens de son village ou de son terroir, etc. Et ça, est-ce que cela peut favoriser l'esprit d'équipe?
Non, pas du tout. Cela va encore allumer les tensions, des conflits, et en conséquence, ça signifie que ça va créer une contre-performance. Parce que l'entreprise est une confédération ou une configuration de plusieurs individualités. C'est-à-dire que si vous voulez vous fier simplement aux gens de votre province, ça signifie que vous allez perdre les compétences d'ailleurs. Est-ce que vous êtes sûr que les gens de votre compétence, de votre province, qui sont dans votre entreprise, ils vont suffire à vous donner toutes les performances possibles que vous auriez trouvées ailleurs? Non, pas du tout. Et c'est ainsi que moi je propose en tout cas l'approche de l'arc-en-cialité. L'arc-en-cialité, je conçois comme la façon dont le manager va faire en sorte que l'entreprise puisse avoir la configuration, si pas des 26 provinces, mais au moins de la grande tendance, comme on parlait des 11 provinces. Ça dit que lorsqu'on fait les recrutements, on pourrait, premièrement, on mise sur les compétences, deuxièmement, on axe son attention sur, n'est-ce pas, la représentativité. C'est aussi une façon également déjà de se préserver contre des tendances tribalistes et également de, en amont déjà, vous préparez un esprit commun de confédération.
Voilà, donc le tribalisme porte un coup dur, ne permet pas de développer l'esprit d'équipe au sein d'une entreprise. Charles veut savoir si l'esprit d'équipe peut venir naturellement ou on doit le créer. Il faut y travailler là-dessus.
Lorsqu'on recrute les individus, chacun vient avec son individualité, avec sa psychologie, avec son profil. Et donc, l'entreprise a un objectif commun. Ce qui fait que chacun, il vient avec son individualité, avec son objectif individuel. Il faut les amener tous à percevoir, avoir le regard sur une même direction. C'est-à-dire vers l'objectif de l'entreprise. Voilà. Et également, qui dit résultat, qui dit objectif, voit le résultat à produire. Et donc, ce qui fait que l'entreprise doit travailler, donc, ce n'est pas spontané, ni naturel, mais c'est une dimension qu'on crée, qu'on doit créer, et on les crée à partir des facteurs du milieu de l'entreprise. Mais il y a également l'environnement physique de l'entreprise, la configuration. Par exemple, lorsque vous avez les open space sont des bureaux qui ne sont pas cloisonnés.
Cloisonnés, oui, des espaces de travail ouverts.
Fait partie des facteurs qui concourent également à la création de l'esprit d'entreprise. Donc il y a plusieurs facteurs comme ça qu'on peut mettre, n'est-ce pas, qu'on peut citer, qui peuvent créer, participer à la création d'un esprit commun de l'entreprise. Donc ce n'est pas spontané ni naturel, mais c'est un esprit qui est créé. Pourquoi ? Parce qu'il faut créer cet esprit, parce que tout le personnel, malgré leurs individualités, sont obligés de regarder à la même direction que l'entreprise, c'est-à-dire de voir l'objectif de l'entreprise et également de viser l'atteinte, la production des résultats.
Voilà, atteindre les résultats, la performance, comme on le dit. On va accueillir d'autres auditeurs qui sont en ligne. Pierrot est à Lubumbashi, Safari depuis Gabarrière. Et puis, docteur Christian nous appelle des Bounia. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 0 81 890 63 94.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Bien, comment construire l'esprit d'entreprise, l'esprit d'équipe, je veux dire, au sein d'une entreprise, d'une structure donnée? Bien, on en parle avec David Pata, expert en organisation du travail et management des compétences. Charles venait d'intervenir tout à l'heure. On va accueillir à présent Pierrot, qui est aussi à Lubumbashi. Bonjour Pierrot.
Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à l'invité et tous les auditeurs de la radio Capi. C'est Pierrot Pagnan depuis Lubumbashi.
Quelle est votre question, Pierrot?
Moi, oui, je vous laisse directement aller dans le sujet, parce que nous savons que dans cette république ici, la plupart des entreprises sont privées. Et dans les entreprises privées, ce sont des cas qui nous arrivent, hein, les cas qui sont permanents. Nous voyons par exemple, vous êtes dans une entreprise privée. Or, nous savons que nous, en santé publique, on nous a dit que dans les privés, c'est l'argent ou rien. Donc, c'est quand vous avez votre entreprise, le but principal est de faire des recettes. Lorsqu'on veut faire des recettes, surtout les entrepreneurs congolais, eux ne suivent même pas ce qu'ils bénéficient dans leur formation d'entrepreneuriat, mais veulent utiliser les travailleurs. En utilisant, et leur objectif, c'est...
Allô, Pierrot? Pierrot n'est plus là, il y a un souci au niveau de la liaison téléphonique. On va accueillir Safari depuis Gabarrière. Bonjour Safari.
Bonjour Monsieur Jody, ça fait longtemps je crois. Comment vous allez?
Je veux bien Safari. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'esprit d'équipe?
Oui, je parlais aussi Monsieur l'invité. J'aimerais dire ceci, l'esprit d'équipe c'est bien. Les autres ont fait tout pour les conquérir, mais je crois qu'ils ont aussi des difficultés. Parce que j'étais devant un peuple qui, je ne le cite pas, mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir un travailleur, donc même s'il travaille dans une professeur, alors il retourne chez lui, aller chercher un membre de sa communauté, et puis venir avec lui l'intégrer donc dans son au sein de son entreprise. Et puis vous, par contre, si vous voulez intégrer son entreprise, donc il ne fait pas, donc il aura la difficulté de vous payer avec une bonne salaire, une bonne salaire. Donc c'est ce qui se passe chez nous souvent, mais je pense que ça a trop de difficultés. Est-ce que Monsieur l'invité, comment vous voyez le château d'eau? Il y avait des pantrons qui avaient le système de gronder leurs travailleurs. Moi, je pense que ça ne pourrait pas aussi favoriser les équipes. Mais les autres disent que lorsque votre patron est trop méchant, il vous gronde, alors cela aussi peut créer un esprit d'équipe. Est-ce que Monsieur l'invité peut avoir un peu de commentaires là-dessus? Sinon, ce n'est que ça ma contribution. Merci.
Bien, merci Safari. Docteur Christian Ebounia, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'esprit d'équipe?
Oui, sur la proposition de la création de l'équipe, bon, nous devons mettre notre pays d'une situation du développement d'abord dans notre pays. Si nos gouvernements prennent des choses au sérieux, tout va bien dans notre pays. Bon. Les entreprises privées et publiques sont toujours des entreprises qui ils travaillent comme d'abord des privés, d'abord comme moi je le vois, qui est le président de l'association, qui va être un président excellent et actif de toutes les manières que les entreprises seront avec des problèmes. Nous devons mettre, ce chef-là de l'entreprise doit mettre son entreprise d'une manière industrielle. Par quoi je parle cela? Parce que les entreprises privées, les chefs là de l'entreprise, si l'argent ça n'entre pas dans les caisses, ce chef là il ne sera pas capable de payer ces gens là qui travaillent dans leur entreprise, de sont en entreprise. Bon, sur la situation des reportements de l'entreprise, nous devons accueillir qu'il y a des droits qui doit faire les entreprises plus que développées et les entreprises plus que être civilisées de leur province ou de leur pays.
Oui, brièvement, bon. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Bon, moi, je voulais dire toujours seulement les entreprises privées d'abord comme les entrepreneurs, d'abord comme moi, si je suis docteur, je suis un entrepreneur. J'ai une vision pour mon pays.
D'accord, merci. Bon, alors vous parlez d'autre chose. Nous, on est en train de parler de l'esprit d'équipe. Bon, je reviens avec vous, Monsieur David Pata. Vous avez suivi Pierrot qui a dit chez les privés, c'est là où il y a beaucoup plus de problèmes. Et Safari a ajouté, c'est là où vous avez un patron, un chef d'entreprise qui gronde les gens, qui humilie les travailleurs. Est-ce que cela peut favoriser cet esprit d'équipe?
Oui, donc... Les deux préoccupations des Pierrot et des Safari reposent sur la nature du chef et également sa façon de se comporter vis-à-vis de ses collaborateurs. Ça signifie, en fait, la vraie faiblesse ici, c'est que beaucoup de gens qui sont retrouvés avec des entreprises, ils n'ont pas été formés dans l'esprit entrepreneurial et également dans le management des organisations et des relations interpersonnelles. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, bien que, peu importe la nature de l'entreprise, que ce soit privé ou public, les recettes sont produites par des individus. Et ces individus ont une dimension psychologique ou psychosociale et ils ont besoin, de temps en temps, qu'ils puissent sentir qu'ils sont à l'aise et qu'ils sont dans les meilleures conditions pour qu'ils soient productifs. Si aujourd'hui, un employeur tient plus à sa recette qu'à l'employeur, qu'aux employés, la conséquence serait qu'il y aura des motivations avec encore une fatalité qu'un jour l'entreprise va disparaître. Et si l'entreprise disparaît, c'est lui qui sera le grand perdant. Et c'est ainsi, vous verrez par exemple, même dans des entreprises publiques où la dimension humaine n'a pas été prise en compte, ces entreprises ou ces structures patinent. Et aussi, lorsqu'on voit par exemple les conséquences du tribalisme, c'est le népotisme, c'est le clientélisme. Le clientélisme, le népotisme ne peuvent pas permettre à une entreprise d'avoir des personnels venant de tous bords qui vont avoir la possibilité de reconstruire, pour reconstruire un esprit commun, pour voir dans la même direction. Mmh. Et c'est ainsi qu'on conseille, n'est-ce pas, aux managers de faire des recrutements sélectifs. C'est-à-dire, en partant de l'hypothèse que toute chose restant égale par ailleurs. Il faut, si vous voulez être fort, vous devez vous faire entourer de tout le monde. Il ne faut pas simplement rester avec les gens de votre province. Vous allez vous affaiblir. Parce que les compétences, vous ne les trouvez pas seulement dans votre province, vous les trouverez également ailleurs. Et en même temps, l'avantage que vous avez, si vous avez une entreprise multiculturelle, l'avantage serait, c'est que c'est une entreprise qui est représentative et vous avez la possibilité de fédérer plusieurs esprits, en même temps de décourager les gens qui vont vous mettre en difficulté. Parce que plus vous avez les gens d'un même coin, ils ont la possibilité également un jour
de vous détruire.
De vous détruire parce qu'ils ont une force. Et donc, il faut dès le départ, vous détruisez déjà cet esprit pour avoir un esprit commun avec des individualités différentes. Alors, les chefs qui grondent, ce sont simplement des chefs, comme j'ai dit, qui ne sont pas formés. Un chef ne gronde pas. Un chef, ça adapte son comportement face à la nature de l'employé qui est devant lui ou au type de personnel qui est devant lui. On appelle ça un leadership situationnel. C'est-à-dire, devant un employé incompétent et négligent, il faut être directif. C'est-à-dire, cet employé, il faut lui transmettre les compétences, en même temps, il faut le surveiller. Mais devant un employé qui est compétent, qui est très motivé, il faut faire la délégation et lui faire confiance et de temps en temps venir observer. Devant un employé qui est incompétent, mais très motivé, il faut privilégier les transferts, n'est-ce pas, des compétences. Et devant un employé qui est compétent, mais il est négligent, il faut de la surveillance. Vous voyez donc, un manager ne va pas gronder. Et un manager qui a la tendance, l'habitude de gronder ses employés, souvent sont des gens qui souffrent d'un complexe d'infériorité et qui les transpose en adoptant un style autocrate. En réalité, les autocrates sont des gens qui sont de nature faible.
De nature, ils sont faibles.
Ils sont faibles.
Alors, dans une entreprise où le patron a des gens qui lui servent d'agents de renseignement, qui à tout moment viennent lui dire des choses telles, qu'est-ce que les autres pensent de moi, voilà, tel avait dit ça, tel. Il y a des chefs qui aiment des gens comme ça, qui viennent leur raconter des histoires à tout moment et changent de comportement. Tout ça, ça détruit l'esprit d'équipe.
Effectivement, ce que j'ai dit, c'est souvent sont des chefs faibles, de nature. Parce qu'un chef qui est compétent, il n'est pas complexé, il peut recevoir tout le monde et avoir l'avis de tout le monde, et il est ouvert, etc. Ceci arrive lorsque le chef lui-même a ouvert la porte. Quand vous ouvrez la porte aux gens qui viennent vous raconter des histoires, ça signifie
qu'ils viennent accuser les autres.
Qu'ils viennent accuser, là nous tombons dans ce qu'on appelle des pommes pourries. Dans une entreprise, on peut trouver une pomme pourrie. Malheureusement, une même pomme pourrie peut faire
pourrir. Peut affecter aussi les autres.
Peut affecter effectivement les autres. Oui. Et les pommes pourries, c'est leur boulot. Aller raconter des histoires chez les chefs. Malheureusement, puisque le chef lui-même, il est impuissant, il est très faible, il ne peut pas comprendre il ne peut pas discerner qu'on est en train de le distraire. Parce que le chef, il est chef pour tout le monde. Il n'est pas simplement chef pour X ou Y. Si un employé vous critique, il faut l'écouter, peut-être qu'il a raison. Ça vous donnera l'occasion de pouvoir vous améliorer. Donc voilà, donc voyez, donc un bon chef, c'est un vrai leader. Un leader, c'est celui qui a des bonnes relations avec tout le monde. C'est celui qui incarne la vision de tout le monde. Et c'est celui qui n'est pas complexé. C'est cette personne qui est compétente et qui est capable de pouvoir écouter et transformer également, s'adapter par rapport au contexte, etc.
Bien. Nous avons en ligne Landry. On va accueillir notre intervenant. Il s'agit de Landry depuis la ville de Lubumbashi. Et l'ingénieur John interviendra aussi depuis la ville de Kindu. Landry, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bon, je voulais un peu juste participer à l'émission ici. Ça me fait du bien.
Oui.
Allô?
Oui, ça vous fait du bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Bon, ici à Lubumbashi, à Katanga, bon, il y a un problème de tribalisme. Bon, je voulais un peu vous poser la question. Quand est-ce que ça finira avec les histoires qui passent dans notre province ici? Je ne sais pas si il y a aussi le gouvernement central va améliorer les histoires ici.
Bien, merci. Ingénieur John Kika de Kindu, bonjour. Ingénieur John Kika, bonjour.
Ingénieur John Kika, vulgarisateur agricole indépendant qui vous appelle depuis la ville de Kindu.
Voilà, John Kika, vulgarisateur depuis Kindu Mulungé. On vous écoute.
Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Moi, j'avais été pris dans un projet Rollback Malaria de Merlin à Kindu ici.
Mmh.
Alors, le chef m'a posé une question en rapport avec la ligne. Je lui ai dit, un agent doit recevoir seulement les ordres d'un seul chef et il faut qu'il y ait une hiérarchisation comme ça dans le pouvoir. La dame me dit non, ici chez nous, la stratification est horizontale. Donc nous nous mettons tous au même pied d'égalité sur une même table. Et moi j'avais été recruté en qualité de cartographe dans ce projet-là. Et étant donné cette confiance que la dame m'avait donnée, j'avais vraiment produit une carte de l'air de santé qui était une carte très bien appréciée. Mais il y a des endroits, mes chers amis, vous entrez, vous trouvez dans l'entreprise l'un des prix de tribalisme. Alors, on vous dit que le chef qui compte sur les gens de son coin, il oublie que peut-être son frère n'a pas la capacité de lui procurer ce qu'il pourra obtenir, ce qu'est l'entreprise de son coin. Il va mettre en mal les gens qui ne sont pas de son coin, hein, toujours pour favoriser les gens de son coin. Est-ce que cette façon de faire ne fait pas, est-ce que cette façon de faire là, je veux dire, c'est une façon de faire qui peut encourager, qu'elle peut encourager ou qui peut causer préjudice à l'entreprise? Par ailleurs, vous pouvez voir la personne là que vous malmenez qui n'est pas votre frère, mais c'est celui-là qui a de l'expertise, qui est capable de faire de bonnes choses dans l'entreprise, hein, alors que le frère que vous sur qui vous comptez, que vous avez recruté sur le fait de tribalisme, qui sont, bon, passez-moi l'expression, ne sont pas compétents à proprement parler.
Voilà, justement, merci ingénieur, on en a parlé tout à l'heure, le tribalisme au sein de l'entreprise. Tout ça, ça porte un coup dur, ça ne favorise pas l'esprit d'équipe. David Pata, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Effectivement, donc, comment nous allons éviter le tribalisme? Je pense, c'est une question de la volonté. Volonté de qui? De nous tous. Parce que nous tous, nous allons un jour avoir l'occasion d'occuper des postes de responsabilité. Si vous devenez un acteur politique, un animateur politique, et qu'on vous donne des responsabilités et que vous devez nommer les gens, il faut nommer les gens en fonction de les compétences, également de l'arc-en-cialité. Mais si également vous êtes manager et que vous avez aujourd'hui la possibilité d'engager les gens, il faut également le faire avec le principe de l'arc-en-cialité. Et tout ceci repose sur les recrutements. Nous devons privilégier et nous ne devons pas nous gêner d'avoir des recrutements sélectifs. en tenant compte des compétences des gens et également, vous savez, nous avons dans notre pays plus de 250 ethnies. Plus de 250 ethnies. Et vous imaginez, chaque ethnie a sa culture. Donc nous sommes parmi, nous sommes, je pense, deuxième en Afrique en termes de multiculturalité, hein, de la diversité ethnique. Et donc, si on ne fait pas très attention dans cette dimension de la gestion de l'interculturalité ou de la diversité au sein de nos entreprises, on aura toujours des soucis. Alors, mais que faire? Faudra-t-il attendre Dieu, que Dieu lui-même vienne exclusivement en RDC pour mettre fin au tribalisme? Je pense non. Donc, c'est une question de volonté. De volonté des animateurs politiques, de volonté des managers. Et à un moment donné, nous devons faire tabula rasa. Débarrasser la table avec toutes les paperasses qu'il y a, et maintenant mettons de l'ordre dans les engagements, dans les affectations.
Selon les compétences.
Selon les compétences et en tenant compte de la crancialité.
D'accord. De la diversité. Alors, comment créer cet esprit d'entreprise là où les gens ne se parlent pas, il y a des conflits, les gens se retrouvent dans des groupuscules, voilà, il y a toujours un peu la guéguerre entre les travailleurs, la jalousie, etc. Dans un tel environnement, David Pata, comment est-ce que vous allez arriver à construire cet esprit d'équipe?
Donc là, il faut un expert externe. Si l'entreprise a des soucis, ils peuvent nous contacter. Nous allons rendre, parce que en fait là, il faut faire ce qu'on appelle le diagnostic. C'est comme quand vous êtes malade, hein. L'entreprise est comme un corps humain. Quand la personne est malade, il fait quoi? Il va dans un hôpital. Il passe dans beaucoup d'examens pour faire les diagnostics. Donc, lorsque l'entreprise enregistre beaucoup de cas. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, il y a des entreprises où il y a des cas d'empoisonnement. Il y a des entreprises où il y a des cas de mauvais sort. On dira oui, on ne sait pas effectivement tout
les
ça.
Cas des fétichismes,
il y a des fétichismes, mais il y en a. Donc il y a possibilité d'isoler tout ça parce qu'il y a des déclarations, etc. Et il y a des intentions. Et donc tout ça, ça fragilise l'esprit d'équipe. Alors donc ce qu'il y a à faire, c'est simplement de vous confier à un expert comme moi. Je peux, Ratio peut vous accompagner précisément.
C'est quoi
Ratio? C'est un cabinet, n'est-ce pas, d'expertise en matière de tout ce qui est organisation du travail et management des compétences, qui offre plusieurs services, notamment les recrutements, les bilans des compétences, etc. Peut venir à un moment donné vous accompagner pour faire les diagnostics, identifier les différents problèmes et également enclencher un processus de réajustement pour créer ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise. Donc c'est tout un travail, c'est tout un traitement qu'il faut suivre. Et donc je ne sais pas étaler tous les aspects thérapeutiques.
Mais s'il y a des jalousies, tel va toujours en mission, tel a des promotions, nous on n'en a pas, etc. Des choses comme ça.
Mais pourquoi d'abord qu'il y ait une seule personne qui va en mission? Vous voyez déjà que là il y a un problème d'équité.
Oui.
Il faut faire en sorte, quand vous êtes manager, il faut manager, il faut faire vraiment en sorte que les gens soient traités de manière équitable. Il ne faut pas transparaître votre faiblesse, votre tribalisme au sein de l'entreprise. Vous êtes là pour tout le monde. Vous n'êtes pas là simplement pour les membres de votre village.
Mais ni non plus de votre clan. Les cas de jalousie, il est toujours apprécié, il travaille bien. Nous autres, on n'est pas appréciés, etc.
Oui, mais parce que simplement, comme j'ai dit, c'est un problème du management. C'est-à-dire, le manager doit savoir apprécier chacun à sa juste valeur. Lorsque vous avez demandé un travail à une personne, il a bien fait, il faut l'apprécier. Il ne faut pas simplement, quand les autres font, vous ne savez pas les apprécier, et apprécier une seule personne. Là aussi, vous allez attisser, n'est-ce pas, le feu que vous aurez du mal à éteindre. Parce que quand il y aura des cas d'empoisonnement, etc., vous aurez du mal à gérer. Même vous-même, vous allez fuir l'entreprise.
Les cas de mauvais sort, comme vous l'avez dit.
Oui, mais les cas de mauvais sort existent. Vous savez, moi, je fais beaucoup de recrutements au travers dans ces pays ici.
Oui.
Et une fois, je ne cite pas là, je suis allé, j'ai été quelque part faire le processus du recrutement et je me suis retrouvé devant deux gens qui avaient beaucoup d'expérience et qui me disaient que ils ont quitté leur employeur. Alors, j'ai reçu 5-6 personnes et j'ai senti qu'il y avait une sorte de récurrence. Je devais faire une étude de profondeur. Quand j'ai fait des entretiens de profondeur, j'ai rappelé tous ces gens, j'ai commencé à entrer en profondeur, j'ai compris, il y avait une chose. Tous me disaient, j'ai quitté l'entreprise parce que je ne m'entendais plus avec X, Y. Ou ça peut être les chefs, ou ça peut être les collaborateurs. La dimension cachée, c'est quoi? C'était simplement, dans ce milieu, il y a des cas d'empoisonnement. Et dès que vous entrez en conflit
avec telle ou telle autre personne,
vous êtes en danger. Chacun prenne ses dispositions. La vraie disposition, c'est de quitter l'entreprise.
C'est de quitter avant.
Non.
Avant
vous voyez, même, de vous retrouver même sous terre. Un manager qui ne sait pas bien gérer, un jour, lui-même, il va fuir. S'il ne va pas fouiller, il va perdre l'entreprise si c'est lui-même qui, si l'entreprise lui appartient.
Oui.
Il
va perdre l'entreprise va fermer les portes parce que ça affecte le rendement.
Ça affecte le rendement. Oui. Et le manager doit faire attention aux pommes pourries. Quand vous avez des pommes pourries, vous avez plus de chances et de malchances de perdre l'entreprise.
Bien, on va terminer avec la question de John de Colosi. Bonjour John.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bon, c'est pas une question, mais j'ai juste des préoccupations. Mmh. Et je voulais aussi insister sur le fait que dans certaines entreprises, on n'apprend pas à étudier les comportements des travailleurs. Ça, c'est de un. Il y a de deux aussi. Je voudrais insister aussi sur le fait que les chefs d'entreprise et ceux qui ont des responsabilités doivent surtout éviter de consommer une certaine substance, par exemple, pour mieux gérer leurs problèmes ou autres.
Quel genre de substance vous faites allusion?
Bon, c'est gonné de tous, hein. Parfois, pour gérer des situations stressantes, il y en a qui prennent des substances. Alors, ça, c'est à décourager.
Vous voulez parler de la drogue, l'alcool ou quoi?
On ne sait pas, peut-être.
D'accord, merci David Bata.
Bon, ça, ce sont des cas que tu as vécu. Ok, donc on ne tient pas compte de la compréhension des travailleurs ou du comportement des travailleurs. Oui, effectivement. En fait, là, ce sont les managers. Les managers doivent se former. Ils doivent suivre des formations sur le leadership, sur le management, sur la psychologie.
Donc on peut dire que c'est sur le manager que repose la responsabilité de créer cet esprit d'équipe.
Et effectivement, parce que c'est lui qui est Dieu dans cette entreprise, dans ces petits groupes. C'est lui qui incarne la vision divine. Mmh. Et donc, lui, il doit avoir la capacité de comprendre les comportements des gens, savoir à quel niveau, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et également, avoir un esprit sain. On dit un esprit sain dans un corps sain. Et donc, quand vous allez avoir un esprit sain dans un corps sain, vous n'allez pas prendre des substances, entre guillemets, pour gérer.
L'alcool ou la drogue.
Donc, la substance à prendre ici, ce sont des principes et des théories de management et de leadership.
De leadership.
Qu'il faut beaucoup prendre en excès. Qu'il faut prendre en excès.
D'accord. Alors, s'il y a des gens qui veulent recourir à votre coaching, comment vous joindre?
Et donc, il suffisait simplement, soit vous visitez notre site www.racioa.com, ou également vous allez nous écrire, nous téléphoner par 081
oui.
209 250 6 à la fin.
6.
Ou encore 09 98 96 98 99. Rassiwa va vous rendre des services de grande qualité et de haute portée.
David Pata, expert en organisation du travail et management des compétences, directeur général de Rassiwa. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
You are. Shakira and David Guetta. So this whole thing is like a global event. We shot in Barcelona, we shot in Los Angeles.
I am Director X. This video is really something special. I mean, you got Black Eyed Peas, you have Shakira.
Don't you worry.